Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vous préparez un semi-marathon, mais vous hésitez sur la stratégie à adopter lors de la course, et notamment à quelle vitesse courir. C'est le cas de Laura qui m'a posé cette question cette semaine. Je vais donc vous donner trois stratégies potentielles et une option que vous pouvez choisir pour courir un semi-marathon, mais qui pourrait s'appliquer à d'autres courses. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, que vous allez bien, que vous avez plein d'énergie, que vous êtes prêts pour relever vos défis. Vous écoutez le conseil de Kilomètre 42. Vous savez, chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer, préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Je veux vous aider par mes réponses à devenir champion du monde et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de semi-marathon, qui est une étape importante. C'est une distance sur laquelle on doit commencer à se pencher plus sur la stratégie, l'hydratation, les ravitaillements, car la durée de course est plus longue. La question de Laura cette semaine est assez simple, mais pas si facile que ça à répondre. C'est comment bien courir son semi, elle met ça entre guillemets, enfin répartir son allure sur les 21 km. Alors je profite de cette question de Laura pour vous présenter les stratégies que je trouve intéressantes et que j'ai pu tester, et je rajoute une petite option à la fin. Mais d'abord, je voudrais féliciter Sonia, à qui j'avais répondu dans le précédent conseil. Rappelez-vous ce que je lui disais sur comment reporter sa préparation d'un marathon à l'autre. Eh bien, elle est devenue marathonienne et je me permets de lire le message qu'elle m'a envoyé. Merci beaucoup pour tous tes conseils et ton podcast qui m'a suivi tout au long de ma prépa et qui m'a appris plein de choses. J'en suis extrêmement reconnaissante. J'ai pu boucler mon premier marathon, avec un petit smiley qui fait la fête. Encore merci. Alors déjà, bravo Sonia pour ce beau titre de championne du monde de ton monde. Devenir marathonienne, ce n'est pas rien. Merci aussi pour ton message. Et vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, poster vos commentaires aussi sur Apple Podcast, sur Spotify, m'envoyer un message sur Instagram, comme l'avait fait Sonia. Ça fait toujours plaisir, en fait, de voir en fait comment vous utilisez les conseils. J'en ai reçu pas mal, notamment après le marathon de Paris. J'en avais rencontré certains d'entre vous aussi. On en reparlera très très vite, je vous le garantis. Et ça fait toujours plaisir parce que ça montre que finalement, les conseils que je peux vous donner dans les épisodes, que les invités aussi, avec leurs conseils, vous aident à progresser et devenir champion et championne du monde de votre monde. Donc maintenant, venons-en donc à la question. Et avant de répondre à la question, je voudrais remercier d'abord NutriPure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ma forme, dans ce podcast, dans ma capacité aussi à publier les épisodes, travailler dessus pour vous amener les informations les plus utiles et précises. NutriPure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse, fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté, et leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. Et nous sommes vraiment d'accord, nous avons la même philosophie sur les fausses promesses. En fait, il n'y a pas de fausses promesses, je ne vous fais pas de fausses promesses dans le podcast, ils ne font pas de fausses promesses non plus avec leurs compléments. Leurs compléments viennent complémenter mon fameux triptyque SAM, sommeil, alimentation et mouvement. Ce ne sont pas des pilules magiques, j'en utilise un certain nombre au quotidien, mais aussi dans l'entraînement et dans les courses quand j'en fais. Je parle par exemple de la boisson longue distance, qui est très 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 bien adaptée à l'endurance sur des sorties, sur des courses qui dépassent 1h30, 2h, ou encore les électrolytes pour compenser les pertes en minéraux. Et avec le printemps qui va bientôt arriver, un jour il va arriver avec la température qui va arriver, on commence à transpirer plus, les électrolytes c'est quand même important. Vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code Hamsters. Et je dois le dire en plus, si vous écoutez l'épisode à sa sortie, en ce moment c'est la période anniversaire et ce pourcentage de réduction se cumule avec une plus grosse promotion sur le site NutriPure. Le lien est dans la description de l'épisode, vous cliquez directement sur le lien et la réduction s'appliquera directement. Alors maintenant, venons-en donc à la question de Laura hein, sur ces histoires de vitesse, d'allure, quelles sont les allures à adopter pendant un semi. Alors, je voudrais aussi vous rappeler que j'ai parlé du semi-marathon il n'y a pas très longtemps, c'était dans l'épisode Le Conseil 69, sur comment préparer un semi, c'était en février. Alors, il y avait des conseils sur le avant, sur les stratégies aussi, notamment sur comment ce semi était placé. Est-ce que votre objectif sur un semi, par exemple, c'est de juste le finir? Est-ce que c'est de préparer une autre course? Par exemple, vous préparez un marathon et vous voulez courir le semi-marathon à l'allure marathon. Ou est-ce que c'est une course objectif? Ça change un petit peu la donne hein, par rapport à la question de Laura, parce que forcément, si le but c'est de finir, bah, on est moins regardant sur le temps que l'on veut faire, même si on se fixe toujours un objectif. Si on prépare une autre course, on a une tendance plutôt à se caler sur la vitesse pour l'autre course ou tester des choses qu'on veut faire dans la course peut-être principale. Et puis si c'est son objectif, bon là bien sûr, on est beaucoup plus regardant sur les stratégies, sur comment battre son record parfois. Donc ça dépend un petit peu de votre vision et Laura notamment, ça dépend aussi de ta vision de ton semi. Maintenant, n'empêche que quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser? Alors j'en ai vu trois, hein, j'en ai testé trois moi dans les différentes courses que j'ai pu faire. Et puis j'ai mis une option. Vous allez comprendre l'option, mais vous la connaissez déjà parce que vous savez, j'en ai déjà suffisamment parlé. Pour vous parler de ces stratégies, on va imaginer que vous vouliez faire un semi en 2 heures. Voilà, hein, j'ai pris comme ça un chiffre un peu rond hein, pour essayer. C'est peut-être pas le chiffre le plus facile d'ailleurs pour faire des calculs, je me suis rendu compte après. Mais on va dire, on va le faire en 2 heures. Alors, la première stratégie, ça serait de se dire, je vais le faire en allure constante. C'est-à-dire que là, on va prendre le temps que l'on veut faire, donc 2 heures. On le divise par la distance, voilà. Donc, ça nous donne une moyenne au kilomètre et on va essayer d'être dans cette allure. Alors, dans ce cas-là, si on faisait en 2 heures un semi-marathon, on serait sur une allure de 5 minutes 41 au kilomètre. Et on dirait, ben, du premier kilomètre au 21e kilomètre et les petits mètres qui restent derrière, on va essayer d'être toujours dans cette fourchette d'allure. Alors, à 5,41 pile poil, pas forcément, mais en tout cas, à quelques secondes près, hein, vraiment dans ces allures-là. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour arriver à cette allure-là, ben, on va s'entraîner dans cette allure-là, essayer de la repérer, hein, pour ne pas avoir regardé sa montre en permanence, et repérer les sensations qu'on a sur cette allure. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est le fameux negative split. Hein, c'est la stratégie des champions qui est beaucoup utilisée par les marathoniens. Elle avait été un peu remise au goût du jour, notamment par Kipchoge sur son record du monde de marathon à un moment donné, parce que bon, on se rendait compte qu'il était dans cette stratégie de negative split. Elle marche sur un 10 km aussi, elle marche sur du semi, elle marche sur du marathon. Donc, elle est très connue. L'idée, en fait, c'est de diviser la course. Alors, on peut la diviser en deux moitiés, hein, avec une deuxième moitié qui sera courue plus vite que la première. Donc, par exemple, on pourrait dire que, si je reprends mon histoire de 2 heures, on pourrait courir la première moitié du semi-marathon en 1h01, par exemple, et puis la seconde moitié en 59 minutes. Alors, je donne hein, comme ça une fourchette, hein, mais il faut l'adapter un petit peu. En général, on va trouver des adaptations qui vont de 1 à 3, voire 5% plus ou moins rapide. Ça dépend un petit peu, vous trouvez des calculateurs. Généralement, c'est entre 1 à 5% d'écart. Ce qui fait, hein, ça joue à quelques secondes, hein, cette histoire-là, ça joue à 5 ou 10 secondes, hein, selon les calculs. Qu'on peut faire entre les plus rapides et les kilomètres les moins rapides. On pourrait aussi imaginer diviser en quart. Hein, j'ai trouvé hein, cette formule de calcul, par exemple, on pourrait dire on fait les 5 premiers kilomètres en 6 minutes au kilomètre et puis ensuite en 5,51. Donc vous voyez que là, par rapport aux 5,41 de départ, on est plus lent. Mais bien sûr, pour arriver à courir en 2 heures, bah, ça veut dire que la deuxième partie, il faudra courir bien plus rapidement. Et ça donnerait, par exemple, le kilomètre entre 10 et 15 à 5,34 et puis les derniers kilomètres 5,25. Et puis si vous avez de l'énergie, même deux derniers kilomètres ou le dernier kilomètre, le faire encore plus rapidement, genre 5,15. Bon, ça peut passer autour de 2 heures hein, à peu près dans ce format-là. C'est ajusté toujours un peu pareil hein, parce que selon si vous voulez faire avoir en deux moitiés ou si vous le divisez en quart, il va falloir un petit peu ajuster. Le gros avantage de cette stratégie, c'est que ça vous permet en fait de partir un peu plus doucement, un peu plus tranquillement, voire un peu même de finir l'échauffement si vous n'êtes pas échauffé. Donc voilà, vous avez une vitesse qui est plus tranquille. Et puis vous allez accélérer petit à petit. Et puis vous allez espérer être plus frais à la fin que ceux qui seraient partis plus rapidement. Et donc les doubler en fait. Et donc c'est vachement motivant. Parce que si vous faites l'inverse, et ce qui peut être le cas hein, des fois de faire l'inverse, c'est-à-dire on part vite et puis on se fait, on tient pas le rythme sur la fin, et bien on se fait rattraper par les autres, on perd un peu le moral. Alors que si vous partez plus tranquillement, un petit peu dans la réserve, que vous accélérez au fur et à mesure, votre tendance sera plutôt de rattraper les autres personnes. Et donc finalement, ça vous met même des objectifs en vous disant, bah tiens, hop, je rattrape la personne là, puis ensuite la suivante, et puis la suivante. Donc vous grignotez comme ça, et pour le mental, c'est super bon, parce qu'en plus, on a l'impression vraiment de bien gérer sa course de cette manière-là. C'est pas forcément facile, hein, le négative split, hein. Il y en a plein qui se plantent dessus. Ça dépend vraiment hein, de l'allure qu'on choisit. C'est pour ça que c'est pas si évident que ça. Il faut trouver les bonnes allures, celles dans lesquelles on est un petit peu en dedans au départ, et puis ensuite être capable d'arriver ensuite sur des allures plus rapides. Moi, dans le negative split, il y a un truc qui me pose problème et c'est ce qui m'amène à la troisième stratégie, c'est le départ. Voilà, c'est le départ. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une stratégie que je préfère. Je le dis très clairement, c'est ma troisième stratégie. J'appelle cette stratégie « vivre le moment ». Alors, je ne sais pas si on pourrait lui donner un autre nom. Mais en fait, « vivre le moment », c'est quoi ? C'est j'ai dit, moi, le truc, je suis un peu couillon. Enfin, franchement, il y a un truc qui me rend con. C'est le départ avec tout le monde qui part, le coup de, vous savez, la musique qui monte, etc., le coup de pistolet au départ, bam, là comme ça, on est tous partout, on est tous prêts à partir, ça part comme ça. Moi j'ai une tendance, je l'ai fait sur des crosses, je l'ai fait sur des 5 km, j'ai fait sur 10, j'ai fait sur même mon marathon, j'étais parti un petit peu comme ça, un peu dans cette allure là, j'ai tendance à partir rapidement. Ouais, j'ai tendance à partir rapidement. Et en fait, ma stratégie, c'est pour ça qu'elle est un petit peu différente par rapport à celle que je viens de donner avant. C'est-à-dire que j'aime bien cette euphorie de départ, parce qu'on se sent porté, ça va vite, on a des jambes et tout. Et donc, c'est de considérer qu'en fait, il pourrait y avoir 2, 3, peut-être un peu plus de kilomètres, mais pas beaucoup plus. En tout cas, les 2, 3 premiers kilomètres, de profiter de l'euphorie de départ et de partir plutôt vite. Et ensuite, de trouver une vitesse, se stabiliser dans une vitesse qui va bientôt être, bien sûr, être plus lente, mais de garder de l'énergie pour une fin rapide. Et là, on va être sur un emballage final dans les 2-3 derniers kilomètres avec l'énergie qui reste et pourquoi pas, s'il nous reste de l'énergie, même pour finir assez rapidement. Alors, la vitesse dans ce cadre-là, elle est un peu plus complexe à calculer, je dois le dire, mais je trouve que ce qui est intéressant dans cette stratégie-là, c'est qu'on profite de l'euphorie de départ pour partir rapidement, pour avoir cette sensation un petit peu grisante, pour profiter de la fête, pour avoir l'ambiance, etc. Si vous avez une tendance à vous laisser emporter par l'ambiance, et ben cette stratégie-là, elle est intéressante. Et puis, si vous arrivez à bien descendre votre vitesse, à trouver une vitesse dans laquelle vous avez stabilisé le rythme cardiaque, le souffle, où vous sentez que vous êtes pas mal, derrière, ensuite, ça vous permet de gagner de l'énergie pour la fin et notamment, on va dire, pour partir du kilomètre 19, entre 19 et 20, de pouvoir accélérer. Et c'est là aussi, à un moment donné, où vous avez les autres personnes qui commencent à accélérer, vous allez pouvoir, si vous avez de l'énergie, pouvoir grignoter à nouveau les personnes qui sont devant, hein, essayer de les rattraper. Et puis, pourquoi pas finir en sprint si vous avez suffisamment d'énergie. Cette stratégie-là, je dois dire, a très 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 bien marché pour moi l'an dernier sur le semi-marathon de Vichy où j'ai battu largement mon record. Le premier kilomètre, je le fais mais vraiment trop rapidement. Je le fais en 3:40 et quelques, ce qui est une vitesse bien trop rapide pour être tenu pendant toute la course. Mais ensuite, en fait, en stabilisant derrière, j'ai pu retrouver mon souffle, en fait, hein, comment on pourrait dire, un second souffle, le tenir suffisamment longtemps. Et à la fin, j'avais encore de l'énergie pour accélérer sur la fin. En plus, vous savez, il y a des encouragements, les gens qui en rentrant la musique, etc. Donc, retrouver cette énergie-là et même sprinter à la fin. Il y a une autre technique que j'ai utilisée et c'est mon option, ma fameuse option dont je vous ai parlé. J'ai dit, j'ai une option. Et cette option, c'est quoi ? Eh bien, c'est de marcher sur les ravitaillements. Là, on en avait parlé avec Bruno Obi dans un épisode de Sport Nutrition. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, notamment sur la méthode Cyrano, l'idée, hein, c'est de dire que peut-être c'est plus facile de se ravitailler en marchant. Voilà, hein, quand vous avez un ravitaillement, par exemple, au kilomètre 10, hein, comme ça peut être le cas sur un semi, ça peut être... j'ai eu un semi, je crois qu'à Vichy, c'était au kilomètre 8 ou 9, et puis comme on l'avait deux fois, vous voyez, donc on passait deux fois au ravitaillement, et ben j'avais marché sur le sur ces deux ravitaillements là, et donc en fait ça permet quoi? Et ben ça permet de faire baisser la fréquence cardiaque, ça permet de reprendre son souffle, ça permet aussi de boire tranquillement et donc de pas s'en foutre partout, et donc c'est plus facile, ça évite de choper peut-être des fois un hoquet, un point de côté, enfin vous voyez, un petit peu des trucs comme ça. Donc prendre le temps de boire un petit coup, de hop faire un petit coup ravito, alors j'y pense, s'arrête pas hein, c'est hop, on marche quelques dizaines de mètres en buvant son truc, ça évite d'en mettre partout, on repart. Et ben, moi, je trouve que c'est une bonne stratégie. Et donc, je dis, l'an dernier, ça ne m'a pas empêché de battre mon meilleur temps. Et j'ai eu un témoignage de Mathieu aussi, qui m'avait fait un témoignage il n'y a pas longtemps, en me disant qu'en marchant sur les ravitaux, il avait aussi battu son record sur semi-marathon. Comme quoi, hein, des fois, marcher, c'est aussi aller plus vite. Il y a un rappel important quand même. Quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, elle ne s'improvise pas au dernier moment, mais bien sûr, elle se prépare à l'entraînement. Que ce soit de courir toujours à la même allure, il faut trouver l'allure, celle que vous allez pouvoir tenir, sur laquelle vous êtes confortable, et la repérer pour ne pas avoir regardé votre montre en permanence. Que ce soit sur les autres stratégies qui sont le negative split ou celle que j'appelle vivre le moment. C'est-à-dire qu'en fait, ben, sur le negative split, il faut s'entraîner à finir des séances de fractionnés. Les dernières fractions peut-être plus rapidement, hein, jouer sur la fatigue. On est fatigué des premières fractions. Et ben, les dernières fractions, on va les faire plus rapidement parce que ça ressemblera aux conditions de course. Sur les sorties où on a plutôt des fractions longues, c'est pareil, hein, en fait, hein, essayer d'avoir des dernières fractions qui sont plus rapides. Donc, essayer de jouer un petit peu sur ces allures-là. Les sorties longues aussi, on peut les finir avec des 10 minutes, par exemple, de fin de sortie longue. Plutôt que de les gérer tranquillement, eh ben, on peut se dire, il y a 10 minutes à la fin de ma sortie longue que je vais faire à une allure qui sera plus soutenue. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un retour au calme après. Et puis, sur la stratégie vivre le moment, eh ben, c'est s'entraîner à être capable, en fait, d'accélérer, de ralentir, et de courir notamment avec plus de sensations que juste la montre. Parce que c'est vrai quand même que cette stratégie de vivre le moment, c'est, marche très bien avec les sensations. Donc, c'est avoir ben, comment on démarre dans une allure que moi j'appellerais très dure, hein, qui est très dure à tenir, on sait qu'on va pas la tenir longtemps, comment redescendre dans une allure plus confortable, et ben ça en fait il faut s'entraîner à les découvrir, à les repérer, et pas forcément, c'est pas forcément une question juste de montre ou de cardio, c'est un ressenti aussi, hein, vraiment un ressenti, donc ça c'est intéressant de repérer ça. Attention, hein, le ressenti ça peut faire des très bons résultats aussi, hein. Si vous regardez l'actualité, vous verrez qu'au marathon de Londres, il y a un athlète qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques en ayant une montre Casio à 20 balles au poignet, sans cardio, sans les kilomètres, sans rien, hein, ça marque juste le temps, et le reste est aux sensations. Donc voilà, hein, donc comme quoi des fois on a beaucoup de technologies, mais les sensations, apprendre à les reconnaître, c'est bien, et c'est vrai qu'à l'entraînement, vous pouvez vous entraîner tout simplement à vous dire, bah tiens, j'ai un moment, je vais m'entraîner, je vais trouver une vitesse dans laquelle je peux courir, ça va pas durer très longtemps, ça va durer, je peux la tenir 2-3 km, et ensuite derrière, revenir sur une vitesse plus cool, et puis réaccélérer, et donc jouer avec ces sensations, être capable de faire comme des vagues en fait, hein, s'entraîner à faire comme des vagues, mais qui sont pas des vagues comme le fractionné, où on va très vite et puis ensuite on ralentit beaucoup, mais avoir plutôt des vagues dans lesquelles on va varier sur une allure qui va être, par exemple, difficile à une allure plus confortable, passer du difficile au confortable. Voilà, un petit peu ce type d'entraînement-là qui sont intéressants. Et puis, encore une fois, hein, je le dis, c'est que même le recours à la marche, c'est pas mal de s'entraîner, hein, de voir comment on ralentit et comment on repart, parce que c'est parfois le problème que rencontrent les gens quand ils veulent passer de la course à la marche, c'est cette phase de ralentissement et d'accélération, mais en le faisant régulièrement, en fait, vous allez vous rendre compte que ça se fait assez bien et que finalement, vous ne perdez pas tant d'énergie que ça, même si bien sûr, hein, le fait de ralentir et d'accélérer, c'est là où on dépense de l'énergie. Le gain de s'entraîner un petit peu, de trouver le moyen de le faire, va vous permettre aussi d'avoir des bénéfices. Et je le dis, hein, les bénéfices de marcher, par exemple, sur des ravitaillements, c'est baisse du rythme cardiaque, c'est d'arriver aussi à baisser la température du corps. Donc ça, c'est la régulation thermique qui est importante pour la performance. Boire tranquillement, se ravitailler tranquillement, ce sont des éléments qui sont importants. Voilà, bah écoutez, vous avez mes stratégies maintenant. Je vous laisse choisir vos stratégies. Alors, il y en aurait d'autres, hein. Il y en aurait probablement d'autres. Je le dis, hein, ça dépend aussi beaucoup de vos objectifs. N'hésitez pas à me dire quelles sont, vous, les stratégies que vous avez adoptées. Vous pouvez venir me le dire, par exemple, sur mon compte Instagram @BertrandSoulier, ou alors mettre un commentaire je répète, hein, sur Apple Podcast et ou Spotify. Vous pouvez recommander directement chaque épisode sur Spotify. Si vous écoutez sur Spotify, il y a une question. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Et ben, vous pouvez laisser votre avis dessus. Et moi, je les publie comme ça. On les voit aussi sur Spotify. Et ça aide le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Les petites notes, les petits encouragements, ça aide le podcast à être découvert, à être vu par d'autres personnes. Et puis moi, ça m'encourage aussi à vous répondre comme ça, à avoir ce type de format, questions-réponses, les autres épisodes aussi. Ça montre en fait quels sont les épisodes qui vous intéressent le plus, qu'est-ce que ça vous apporte, comment je vous aide. Voilà, pour moi, c'est super important de savoir à quoi sert le podcast et comment vous utilisez le podcast pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Donc n'hésitez pas, je vous remercie d'avance pour vos retours. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao mes championnes et mes champions.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.